merci pour ta grâce, Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que toi seul es digne d'être adoré, Seigneur. Et Seigneur, comme nous avons chanté, nous voulons te donner nos vies, Seigneur, et t'appartenir totalement, Seigneur. Toi qui as donné ta vie à la croix, afin que nous puissions être sauvés et rachetés, nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17. Actes des Apôtres, au chapitre 17, à partir du verset 22. La Bible dit que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et l'apôtre Paul rajoute dans le livre de Timothée, il dit, Dieu en effet veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jésus, dans Jean 14, il dit aussi que je m'en vais au Père, mais je pars avec une mission, c'est celle de vous préparer une place afin que là où moi je serai, vous aussi vous y soyez. Voilà le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu, c'est de vivre avec l'homme dans sa présence éternellement. Là où il n'y a pas de souffrance, là où il n'y a pas de misère, là où il n'y a pas de crise, là où il n'y a pas de deuil. La Bible dit dans Apocalypse, la Bible décrit ce qu'est le ciel. Et on nous dit qu'il n'y aura pas de larmes, puisque Dieu lui-même sera là. Il va essuyer ces larmes-là. Il n'y aura pas besoin de lumière parce que Dieu lui-même va éclairer les hommes, va parler, va agir puissamment. Et nous arrivons dans Actes 17 où l'apôtre Paul parle de Dieu à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous lisons Actes 17, 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Et il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénise, l'aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. On nous dit que l'apôtre Paul se trouve dans une ville et il prêche l'évangile, il parle de Jésus. Et il y a des gens qui étaient ignorants, qui ne connaissaient pas, qui adoraient un Dieu fait peut-être d'or, d'argent, de toute œuvre qui a été fabriquée par l'homme. Et lorsque l'apôtre Paul vient, il vient parler à ces gens-là. Et nous voyons deux réactions. La première, c'est que quand ils entendent parler de Jésus, de la résurrection de mort, les gens se moquent. Mais il y a une autre catégorie qui reçoit cela et qui est touchée. Le thème de notre exhortation de ce matin, c'est une question. Pourquoi certains, ou pourquoi beaucoup, ou pourquoi certains hommes n'iront pas au ciel? Pourquoi certains ne seront pas sauvés? La première réponse, le premier point, c'est parce que les hommes ont un mauvais cœur. Mais dans ce mauvais cœur-là, on va scinder ça en deux. Il y a les ignorants et il y a les méchants. Les ignorants, ce sont des gens qui ne connaissent pas ou qui ont peut-être entendu parler du Seigneur, mais qui n'ont pas eu un solide fondement. Ils ont entendu peut-être de loin. Ils ont entendu parler de Jésus, comme aujourd'hui beaucoup célèbrent Jésus, de loin, en pensant que c'est le jour de sa naissance. Ces gens-là sont dans l'ignorance, mais Dieu est tellement bon qu'il va se révéler à ces personnes, comme Paul a fait là. Et c'est ça le travail que nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons à faire, de faire connaître le Seigneur aux gens, parler du Seigneur. Beaucoup ont de position, tout simplement, parce que ils n'ont pas reçu la vérité. On connaît le témoignage d'une sœur parmi nous qui, à presque 40 ans, plus de 40 ans, elle n'a jamais entendu parler clairement du sacrifice de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus comme tout le monde, mais un Jésus à la crèche, un Jésus du 25 décembre, et puis après on met aux oubliettes dans un tiroir, on reprend l'année d'après. Et certains sont dans l'ignorance. Mais Dieu, dans sa grâce, vient se révéler. Afin que celui qui est dans l'ignorance puisse connaître maintenant, puisse savoir. Et c'est à ce moment-là qu'il y en a qui acceptent et il y en a qui refusent. Ils ont compris, mais ils se moquent. Ils ont bien compris ce que le Seigneur est venu faire. Ils ont tellement compris qu'ils ne veulent pas de cela. C'est ça qu'on appelle les méchants. Le Seigneur appelle aussi les fils de la rébellion. Donc, ils ont bien entendu l'évangile, mais ils ont décidé de refuser. Je rappelle, le thème, c'est pourquoi certains n'iront pas au ciel. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu veut être avec les hommes. On se rappelle la condition initiale lorsque Dieu a créé Adam. Il a créé Ève. Le but de Dieu, c'était qu'ils puissent vivre dans sa présence, qu'ils puissent jouir de tout. Ils avaient l'autorité sur tout. Mais Dieu avait marqué son autorité, une limite que l'homme ne devait pas dépasser. Mais l'homme, par sa désobéissance, sa négligence, a dépassé cette limite-là. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a voulu reconstituer les choses. Il a voulu se réconcilier avec l'homme. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et le Seigneur nous parle. Si tu étais ignorant aujourd'hui, sache que le Seigneur t'apprend qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour toi à la croix et qu'il veut te sauver. Et dans le salut que le Seigneur apporte, il y a la délivrance, il y a l'espérance, il y a la véritable vie, une vie de paix, une vie de joie, même s'il y a des difficultés. Le Seigneur nous promet tout cela. Mais par-dessus tout, le Seigneur nous promet la vie éternelle. Le Seigneur nous promet le ciel. C'est cela la mission du Seigneur. Voilà pourquoi il est venu sur la terre. Alors, dans quel camp te situes-tu? Est-ce dans le camp des ignorants qui finalement découvrent la vérité et s'humilient? Ou alors dans le camp de ceux qui préfèrent se moquer? Nous lisons Luc au chapitre 23. Luc 23. À partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ?» Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà la promesse merveilleuse que le Seigneur fait à cet homme. Et nous voyons les deux types de cas. Le premier, il est peut-être ignorant, on peut lui accorder cela. Il ne connaît pas Jésus. S'il dit « Sauve-toi toi-même », c'est qu'il a quand même entendu parler d'une certaine manière d'un Jésus qui est tout puissant, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui fait des grandes choses, un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi il se permet quand même de lui dire « Mais n'es-tu pas le Christ ? Alors si tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous aussi. Pourquoi tu nous laisses comme ça ?» L'autre lui dit, il lui donne maintenant l'information, il lui dit, mais attention, regarde, toi, tu es là parce que tu as mérité ce que tu as fait. Moi aussi, je suis là parce que j'ai mérité. Mais lui, tu ne peux pas lui parler comme ça. À ce moment-là, il a quand même eu l'information. Malheureusement, il est resté sur sa position. Mais l'autre va plus loin. Non seulement, il a la révélation de qui est le Seigneur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Lorsque tu reviendras dans ton règne, et Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le premier cas, ce sont les méchants, il y a les ignorants. Parce que la Bible dit que Dieu a tout créé, le ciel, la terre, dans le psaume 19, que l'étendue, tout ce qui est là, révèle qui est Dieu. Dans Romains 1, 18, la Bible dit encore que Dieu a créé toutes les choses pour que les gens reconnaissent quand même, au travers du langage de la création, que Dieu existe. Alors, s'il y a le bénéfice de l'ignorance, Dieu se révèle quand même. Mais malgré cela, il y en a qui refusent, comme celui-ci, qui a été catégorique. Il était à la fin de sa vie, il était condamné, mais il a quand même décidé de rester sur sa position. Pourquoi certains n'iront pas au ciel? Pourquoi certains ne seront pas dans le paradis avec le Seigneur? Puisque ils ont décidé, ils ont refusé. Et lorsqu'on voit cela, et le Seigneur dit que large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit, resserré, le chemin qui mène à la vie. Il dit malheureusement, beaucoup prennent le chemin large, puisqu'il est simple, puisque c'est le chemin qui plaît à l'homme. Puisque l'homme ne veut pas avoir un chef. Puisque l'homme veut vivre sa vie comme il a décidé. Mais malheureusement, en faisant ce choix-là, déjà c'est le premier péché, puisque c'est la rébellion contre l'homme. Mais ce péché de la rébellion contre l'homme engendre encore d'autres péchés qui sont la dépravation des mœurs, l'homosexualité, la méchanceté, la haine, sans mesure, l'égoïsme. Toutes ces choses, en réalité, sont la conséquence du premier péché qui est le refus de Dieu. Et à cause de cela, beaucoup n'entreront pas dans le paradis. Alors là, on a parlé de manière générale la condition de l'homme. Donc, on peut mettre les païens dedans. Maintenant, on va maintenant venir sur ce qui nous concerne, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Nous lisons Luc au chapitre 18. Luc au chapitre 18. Donc c'est un texte que nous connaissons, que nous lisons régulièrement, mais c'est un texte qui est aussi riche d'enseignements en ce qui concerne le fait de suivre le Seigneur, mais non seulement de le suivre, mais d'être sauvé, parce que c'est ça le but. Si nous sommes chrétiens, c'est puisque nous voulons être comme notre maître. Or, le but ultime, c'est que nous soyons avec notre Seigneur. Nous lisons au verset 18. « Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Voilà une deuxième raison. Il y a beaucoup de raisons, on ne va pas citer toutes les raisons. On a résumé quelques points. Une deuxième raison qui fait que certains ne seront pas sauvés, certains n'iront pas au ciel. Voilà pourquoi j'ai mis le titre « Certains n'iront pas au ciel » parce que on peut vivre sur la terre avec l'illusion d'être sauvé. Or, pour être au ciel, il faut avoir été sauvé. Mais on peut vivre sur terre en ayant cette illusion-là de dire « Bon, j'ai le salut, mais seuls ceux qui auront véritablement été sauvés, eux, ils seront avec le Seigneur là-haut. » Or, notre but à tous, c'est d'être avec le Seigneur. Et le deuxième cas, ce sont les gens qui sont dans des traditions chrétiennes. Ce sont des gens qui sont dans des habitudes d'église. Ce sont des gens qui sont dans la bonne conscience. Ils viennent à l'église pour se donner une bonne conscience. Ils disent, bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Je viens, je participe au culte. Avant ça, il y a un protocole, je me suis levé le matin, j'ai pris ma voiture. Il a peut-être programmé qu'il allait venir la semaine, une semaine à l'avance. Tout est programmé. Mais il vient tout simplement pour accomplir un rite, une tradition. Il parle parfois du Seigneur. Il exhorte parfois. Mais en réalité, il n'a pas décidé de donner totalement son cœur à Dieu, à Jésus. Jésus n'est pas réellement le maître de sa vie. Jésus n'est pas le maître de sa vie. Mais même dans ce cas-là, le Seigneur nous aime tellement qu'il va se révéler à nous pour nous dire, regarde, il y a un problème. Tout ce que tu fais est bien. Mais si c'est pour faire tout cela, et finalement, ne pas être sauvé, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Beaucoup sont dans la tradition. On discute souvent avec des personnes catholiques qui vont dire, ah, moi je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquant. Et là, dans toutes ces périodes-là, ils sont vraiment dans l'effervescence, dans la joie de célébrer Noël, une fête qui n'est pas biblique. Mais au moins, on se donne bonne conscience. Les mêmes qui disent, oh, moi je ne veux pas de Dieu, mais il arrive un jour, par tradition, parce qu'ils ont appris ça depuis l'enfance, eh ben, ils le font. Ils font des choses. Il va se souvenir que Dieu existe. Il va faire des bonnes œuvres. Et le Seigneur dit à cet homme, non, pour Dieu, ça ne suffit pas pour que tu sois qualifié. Pour que tu sois qualifié, pour que tu ailles au ciel. Parce que c'est ça le problème. Son problème c'était, mais que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois rajouter maintenant pour être sûr d'être avec Dieu au ciel? Toi qui viens du ciel, eh ben, tu peux me le dire. On se rappelle de Nicodème qui est venu voir Jésus. Lorsque Nicodème est venu voir Jésus, il était sûr de qui était Jésus. Il dit, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc tu es vraiment de Dieu. Et Jésus confirme ça en disant, oui, oui. Parce que moi, ce que je dis, ce sont des choses que j'ai vues parce que moi, je viens de là. Vous, vous parlez, mais vous ne savez pas ce que vous dites. Mais moi, je viens de là-haut. Donc je confirme ce que tu dis. Mais il dit, pour entrer au ciel, il faut naître de nouveau. Il faut donner sa vie à Dieu. Il faut dire, Seigneur, je me suis trompé. Je pensais faire les choses depuis longtemps, comme cet homme dit, depuis ma jeunesse, on nous a prêché une fois. Recommencer à zéro avec Dieu, c'est cela. Pour entrer au ciel, eh ben, il faut d'abord commencer à zéro, naître de nouveau. Donc tout ce qu'on a appris autrefois, eh ben, on désapprend ça parce que c'était des traditions, c'était des coutumes, c'était des choses qu'on a appris, culturelles ou culturelles. Mais cela ne sauve pas pour être sauvé, ne suffit pas, pardon, pour aller au ciel, pour être sauvé. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Malheureusement, il peut nous arriver d'être dans cette situation où nous sommes dans les traditions. Comme un frère a témoigné une fois, quelqu'un qui dit, eh ben moi je pense que je serai sauvé puisque mon frère est pasteur. Puisque mon père est pasteur. Ce sont des choses qui font rire, mais il y en a qui se convainc de cela. Puisque l'homme a besoin de croire en quelque chose, eh ben, il va croire en cela, il va croire, bon, comme mon mari est pasteur, et que moi je suis la femme du pasteur, donc par transitivité, eh ben, moi aussi, Dieu aura pitié de moi. Non, ce n'est pas cela. C'est une relation personnelle, on décide personnellement. Personnellement. Et cet homme était dérangé, il était perturbé. Il a pratiqué la loi. Il était dans les traditions. Sûrement, en faisant toutes ces choses, il se donnait bonne conscience en disant, ah oui, j'ai atteint un bon niveau. Peut-être que j'ai fait le mal. Mais maintenant, Dieu va me pardonner. On voit tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe encore aujourd'hui dans le catholicisme, où on paye même pour se faire pardonner. Ce sont des pratiques qui existent encore aujourd'hui. Les gens se disent, bon, je vis ma vie tous les jours, mais je me réserve un peu d'argent ou un temps pour demander pardon. Oui, Dieu pardonne. Puisqu'il est miséricordieux. Mais le jugement sera fait en fonction de as-tu accepté Jésus ou pas. C'est ce que Paul a expliqué aux gens à Athènes dans Actes 17. Il dit, Dieu a fixé un jour où il jugera. Et il a choisi son fils. Comme c'est écrit dans Actes 17, lui jugera, c'est lui qui jugera. C'est cela. Beaucoup sont des traditions. Ils croient en Dieu. Mais de manière traditionnelle, on se rappelle ce que le Seigneur dit dans Matthieu 18. Il dit aux pharisiens, il dit, mais vous avez annulé la parole de Dieu au profit des traditions. Il faut se laver les mains avant de manger. Il ne faut pas toucher à ce qui est impur. Il ne faut pas parler aux étrangers, puisqu'ils sont impurs. Au point même où ils sont allés même à ne même pas aider quelqu'un qui est mourant. Et Jésus dit non, ça c'est votre interprétation. Quand on est dans les traditions, eh ben, on se ment à soi-même, comme Jacques dit. Jacques dit, mettez la parole en pratique. Pourquoi ? De peur que, en ne la pratiquant pas, eh ben, on se fait soi-même des faux raisonnements. On se dit, bon, j'ai fait ce qu'il fallait et c'est bon. Non. Est-ce que c'est ça que Dieu attend? Ce n'est pas cela que Dieu attend. Pourquoi beaucoup n'iront pas au ciel? Puisqu'ils sont restés dans des traditions. Dans des habitudes, on meuble les choses. On attend que le temps passe. Il y en a qui vont donner l'aumône. Il y en a qui vont faire le bien. Mais est-ce que c'est cela que Dieu attend? Ces choses sont bonnes. Et le chrétien est amené à faire ça. Mais la différence, c'est que le chrétien, lui, quand il le fait, c'est puisque c'est la conséquence de la nouvelle vie qu'il a reçue de Dieu. Alors que l'autre, quand il le fait, c'est dans les œuvres, en disant, bon, qu'est-ce que je vais récupérer en retour? Il y en a toute l'année, ils vivent leur vie, et un seul mois, ils disent, bon, on va jeûner le ramadan. Et lorsque Dieu voit ça, il est triste. Il est triste. Ce n'est pas cela que Dieu attend. Dieu veut qu'on lui donne son cœur. Il veut qu'on dise, Seigneur, c'est vrai. Peut-être que je pensais être sauvé au travers d'un tel ou d'un tel. Mais Seigneur, je réalise aujourd'hui que j'ai fait fausse route, je me suis trompé. Nous continuons. Nous lisons Philippiens 3. Troisième point, pourquoi certains n'iront pas au ciel ou ne seront pas sauvés? Philippiens 3. C'est l'apôtre Paul qui parle. On peut commencer à partir du verset 4. Pour moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, Je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est très fort ce qu'il dit là. Il dit irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Un troisième point qui fait que certains ne seront pas sauvés, c'est qu'ils ont dépassé le cap de la bonne conscience, ils ont dépassé le cap des traditions, ils sont arrivés à un point où eux-mêmes ils se considèrent comme justes eux-mêmes. Et l'apôtre Paul dit que par rapport à la loi, j'ai été irréprochable. En ce qui concerne toutes les ordonnances de la loi, j'étais irréprochable. Donc moralement correct. Donc la morale religieuse totalement correcte, sans problème. Et il y a des gens qui ont atteint ce niveau-là. On ne peut plus rien lui dire. Il est arrivé à un point où, en quelque sorte, c'est un peu comme l'égal de Dieu. Il est tellement bon, tellement, il pense que on ne peut plus le reprendre, que c'est bon. Mais malheureusement, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Le but de l'exhortation, ce n'est pas de nous dire où est-ce que je me situe. Le but, c'est de se dire, ah Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, aide-moi, je veux m'humilier. Je reconnais que j'ai un problème. Il y a des gens qui sont arrivés à un point où on ne peut plus rien te dire. C'est toi qui as raison, ce sont les autres qui ont tort. L'apôtre Paul dit, mais ces gens-là qui me critiquent, ils disent, mais s'il faut se glorifier quant à la chair, mais moi je suis plus que ces gens-là. J'ai respecté toute la loi, fils de pharisien, pharisien lui-même, circoncis le huitième jour. Et il explique tout. Mais il dit une chose, il dit, ce n'est pas avec ma justice que je vais être sauvé, c'est avec la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je renonce à toutes mes certitudes. Je renonce à tout ce que je pense être comme correct. Je renonce à tout ce qui est comme une force pour moi, puisque ça va me tendre un piège. Ça va me tendre un piège. Il y a des gens, tu as une belle voix. À ce moment-là, le diable vient, il te propose. J'ai fait le témoignage une fois d'une sœur en Angleterre qui a commencé à chanter dans des églises. Et elle a été repérée par un producteur américain qui est venu et qui a commencé à faire des propositions avec des démonstrations, des simulations sur les salaires qu'elle allait toucher. En tout cas, ce jour-là, lorsque la sœur a témoigné, elle a dit qu'elle avait refusé. Mais elle dit, j'ai refusé l'offre qui m'a été faite. Mais elle dit, au fond d'elle, elle a reconnu qu'elle avait atteint un niveau d'orgueil. Parce que quand le diable vient comme ça, il te flatte, mais en même temps qu'il te flatte, il met l'orgueil en toi. Le but du diable, c'est quoi? C'est t'enlever la foi, c'est te sortir de la voie de Dieu. Pour te dire, mais tu es le meilleur, regarde ce qu'on peut faire. Il lui dit, regarde un tel, mais ce sont des gens avec qui j'ai travaillé, ils n'étaient pas connus. Mais j'ai travaillé avec ces personnes-là. Et cette sœur dit, eh ben, le chant qui était pour moi une force, ce jour-là, J'ai compris que ça a été un piège aussi. Et malheureusement, beaucoup se retrouvent dans ce cas-là. Beaucoup se retrouvent dans ce cas-là. Il comprend la parole de Dieu. Maintenant, il va, lorsqu'il lit la parole, ce n'est pas pour lui, c'est pour les autres. Lorsqu'il prêche, il ne s'inclut pas dans la prédication, il prêche pour les autres. C'est ça le plus grand danger. C'est ça le plus grand danger. Et c'est ça qui va nous sortir. On se rappelle de l'exemple d'un homme très renommé, Salomon. Salomon a reçu une sagesse qu'on a trouvée nulle part sur la terre. À tel point que les gens venaient du monde entier pour écouter sa sagesse. Les gens apportaient des présents. Il était respecté. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la sagesse que Salomon a eue, il a eu pour commencer à trancher les problèmes des autres, mais en se négligeant soi-même, en négligeant sa propre vie. Or, les dons que Dieu nous donne, les capacités que Dieu nous donne, les talents entre guillemets que Dieu nous donne, c'est d'abord pour nous-mêmes, c'est d'abord pour notre propre édification en nous-mêmes. C'est d'abord pour nous-mêmes être sauvés. L'apôtre Paul dit à Timothée, eh ben, ce que tu prêches, sois fidèle envers cela. Pourquoi? Parce que c'est ça même qui va te sauver. Ce que tu dis aux gens là, c'est ça qui va te maintenir. Ainsi, quand toi tu seras maintenu, alors tu pourras aussi sauver ceux qui t'écoutent. Mais ça te concerne, ça me concerne, ça nous concerne d'abord nous-mêmes. On prêche, on dit, ah, s'il est tel, était là. On regarde à gauche, à droite, il n'est pas là. Non. Ce que Dieu nous donne, c'est pour nous. C'est pour moi le premier. C'est pour moi le premier. Salomon a eu une très grande sagesse. Il a été reconnu partout pour la sagesse. Mais malheureusement, il s'est occupé des autres et il a oublié de s'occuper de lui-même. Et on connaît tous l'histoire, la suite. C'est qu'il a fini finalement par décevoir le Seigneur, par tomber, par aller dans les péchés, à faire des alliances avec des femmes étrangères. Il s'est repenti, il a fait les Ecclésiastes où il parle toute son expérience. Mais toute cette expérience-là aussi a servi pour comprendre, pour dire, ah oui, finalement, ce que j'avais reçu de Dieu, c'était pour moi. D'abord. Et ensuite pour les autres. Que servirait-il à l'homme de gagner le monde si on perd son âme? Que servirait-il à l'homme de faire des choses, de travailler, de construire des choses, si soi-même on est rejeté? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit, je traite durement mon corps. Pourquoi? De peur de n'être désapprouvé après avoir parlé aux autres. Il dit, je ne veux pas être disqualifié. Il dit que la vie chrétienne lui donne une très bonne image qui est vraiment l'image de ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à la course. La course, c'est quelque chose d'individuel. Chacun a son couloir. Et lorsqu'on ne respecte pas les règles, même si on est le plus grand coureur, si on ne respecte pas les règles, on est disqualifié. On est disqualifié. Il dit, moi-même, je me traite durement. Ce que j'enchaîne aux autres, eh bien, je l'applique à moi-même. Voilà pourquoi le Seigneur dira dans Matthieu 7, ô homme, pourquoi tu cherches à enlever la paille chez l'autre alors que dans ton œil, tu as une poutre, quelque chose de gros, de très grand. La poutre, elle est tellement grande. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit plus se reprendre. Lorsque quelqu'un a mal fait, on ne doit plus le reprendre, non. La Bible nous incite même, nous demande de nous reprendre mutuellement. Mais en faisant cela, soyons honnêtes, soyons sincères avec nous-mêmes. En disant, bon, j'ai repris le frère parce qu'il a menti, mais moi aussi dans ma vie, eh ben, j'arrange puisque j'ai menti. Parce qu'il est arrivé que je n'ai peut-être pas menti, mais j'ai mal parlé à mon mari ou à ma femme. C'est bien de donner des leçons aux autres, mais on se regarde aussi soi-même. Les gens viennent voir Jésus dans Jean au chapitre 8. Ils disent, maître, voilà cette femme. Elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Voilà ce que l'a prescrit la loi de Moïse. Mais qu'a dit Jésus? Il a dit, oui, c'est vrai. Ce que vous dites est vrai. La loi demande de punir cette femme. Et maintenant, vous oubliez une chose. C'est que pour punir, il fait soi-même être irréprochable. Donc celui qui, dans son âme et conscience, pense qu'il est irréprochable, ben, qu'il fasse maintenant justice. Et la Bible dit que tous, accusés par leur conscience, se sont retirés. Ce sont des gens qui ont atteint un niveau de moralité religieuse tellement haute, des extrémistes. Il faut tuer la femme. Il faut la lapider en plus. Jésus dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, celui qui veut faire justice, qu'il le fasse. Mais il faut que lui-même soit irréprochable. C'est cela. Alors le Seigneur nous appelle aujourd'hui à regarder à nos vies. À être humble. À écouter aussi ce que les autres disent. On va te reprendre. Oh, toi, tu es toujours comme ça. Toi, tu es jaloux. Non, le but, c'est que le Seigneur parle au travers de la personne, peut-être pour nous ramener sur le droit chemin. Dieu utilise des personnes. Il va utiliser le pasteur, il va utiliser un frère. Il peut même utiliser, même un païen, malheureusement. Le but, c'est pour nous réveiller. On se dit, mais toi, t'es païen, tu oses me parler même. Or, à ce moment-là, on doit écouter. On dit, même si je n'ai pas tout compris, bon, je prends quand même, je vais analyser ça avec Dieu. Je vais prier. C'est ça l'attitude que le Seigneur attend de nous. Pourquoi beaucoup ou certains ne seront pas sauvés, n'iront pas au ciel, puisque ils vont négliger, parce qu'ils vont, penser qu'ils ont arrivé, ils sont arrivés à un niveau où on ne peut plus rien dire. On amène la parole de Dieu, il y a toujours des choses à dire. Il y a toujours des choses à redire. Il faut comprendre le contexte. Et à ce moment-là, si la parole ne peut plus nous changer, eh bien, qui va nous changer? Si la parole ne peut plus nous transformer, si la parole ne peut plus nous reprendre, qui va le faire? Malheureusement, beaucoup se retrouvent dans ce cas. Nous lisons Matthieu 6. Une quatrième raison qui fait que certains ou beaucoup passeront à côté du salut de Dieu. Matthieu 6. À partir du verset 25 jusqu'au verset 33. C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas, du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il y a une autre catégorie de personnes qui passeront à côté du salut, puisque on leur peut-être a prêché un Dieu qui est celui qui donne. Dieu est la banque. Viens à Dieu, tu auras une vie meilleure. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Mais le Seigneur nous donne la clé dans Matthieu 6, 33. Il dit que cherchons d'abord Dieu. Aimons d'abord Dieu pour ce qu'il est, pour le salut qu'il nous donne. C'est ça le plus important. Et le reste, comme on a décrit au verset 25, le vêtement, la nourriture, toutes ces choses, Dieu donnera. Il y a des gens qui viennent à Dieu, ou qui viennent dans les églises, pardon, puisqu'ils s'attendent à un mariage. Il a calculé, il a peut-être essayé dans le monde, ça ne marche pas. Il dit, bon, au moins dans l'église, je veux trouver quelqu'un. Mais ce n'est pas toujours vrai, parce que même dans l'église, tu peux trouver aussi des caméléons. Et il y a des gens qui viennent dans cette idée-là. Alors, la question qu'on va se poser, mais est-ce que venir à Dieu puisqu'on a un besoin, c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Je pense que tous, si nous sommes là, si nous sommes venus au Seigneur, c'est parce que nous nous sommes rendus compte que dans notre vie, eh ben, il y avait une insatisfaction. On se rappelle de l'histoire de Naaman, le Syrien, qui vient voir le prophète. Pourquoi il vient le voir? Parce qu'il est lépreux. Son problème, c'était la lèpre. Naaman avait tout. Tout ce que l'homme peut utiliser, tout ce que l'homme peut désirer pour jouir sur la terre, il avait le pouvoir. Il avait l'honneur. Il avait non seulement l'affection, mais la confiance de son chef, le roi. C'était un guerrier qui a eu des résultats. Il avait tout. Il avait des servantes, des serviteurs. Mais Naaman avait un problème. Et Naaman est venu voir le Dieu d'Israël, la fille, la petite juive qui est chez lui, l'esclave, dit à la femme de Naaman, mais si mon maître va en Israël, Dieu agira. Le Dieu d'Israël va agir et il sera guéri. Et qu'est-ce qui se passe? Naaman vient vers le prophète. Le prophète lui dit ce qu'il doit faire. Il a résisté, mais il a obéi quand même. Il a fait et il a été guéri. Et il vient voir le prophète de Dieu pour lui dire, regarde, je retourne vers mon pays, à Syrie. Et je sais que là, quand je retourne, comme je suis proche du roi, le roi va m'amener à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Notamment, il va s'appuyer sur moi pour adorer les faux dieux. Et en quelque sorte, ça va m'amener aussi à me prosterner devant ce Dieu-là. Pourquoi Naaman dit cela? Puisque Naaman, finalement, a compris qui était le Dieu d'Israël. Il est venu pour la guérison, mais il est reparti en ayant compris finalement que le plus important, ce n'était pas seulement la guérison, mais c'était de connaître le véritable Dieu. C'est cela. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on peut venir puisqu'on a des besoins. On peut venir parce qu'il y a un problème de maladie qui traîne. On nous a dit, eh ben, Jésus peut agir. On peut venir parce qu'on a besoin de mariage. On connaît des témoignages, parfois des personnes ici au milieu de nous, qui ont été francs et sincères en disant, moi je cherchais le mariage. Mais maintenant, en venant dans cette situation-là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu va nous parler pour nous amener à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Il va nous dire, écoute mon fils, écoute ma fille, ce qui est important pour toi, c'est d'abord de me connaître. C'est d'abord d'être dans ma volonté. C'est ça que Dieu va nous dire. Maintenant, à ce moment-là, il y en a qui vont accepter, qui vont dire, ah oui, c'est vrai. Je suis venu avec de mauvaises intentions, mais j'ai rencontré le véritable Dieu. Et maintenant, je suis heureux. Qu'il donne, qu'il ne donne pas. Que Dieu soit béni. Amen. Mais malheureusement, il y a les autres qui vont dire, ah, moi j'attends. Moi, ça fait 10 ans que je suis converti. Dieu agit dans la vie des autres. Dieu n'agit pas dans ma vie. J'avais telle situation. J'avais tel problème. Qui m'a aidé? Dieu m'a oublié. Je suis malade. Je souffre seul. Où est Dieu? Que fait Dieu? Il y a des gens qui viennent dans cette optique. On m'a dit, convertis-toi, tu auras un travail. Dieu, donne-moi un travail. On traîne. Et Dieu va volontairement, puisqu'il nous aime, il va volontairement faire le travail dans le cœur pour qu'on arrive à comprendre que ce qui est important, Seigneur, c'est de te connaître. Ce qui est important, Seigneur, c'est de te donner ma vie. C'est d'appartenir, de t'appartenir. Je suis venu, Seigneur, sans te connaître. J'avais des projets, j'avais des objectifs. Mais finalement, je me rends compte que devant tous ces projets que j'avais, tous ces objectifs, je me rends compte que ce que tu as à proposer est beaucoup plus grand. Voilà pourquoi un homme comme Zachée, lorsqu'il se retrouve devant Jésus, Jésus n'a rien demandé. Il vient, il voit Jésus. Pourtant, lui, il est venu par curiosité, tout simplement, pour voir qui était Jésus. On lui a peut-être parlé de Jésus. Et Jésus lui dit, je viens chez toi aujourd'hui. Et lorsqu'il voit Jésus, il comprend finalement que tout ce qu'il désirait autrefois, tout ce qu'il a cherché, tout ce qu'il a volé, escroqué, à différentes personnes, par rapport à son travail, il comprend que finalement, tout ça n'a plus de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est Dieu lui-même. Et malheureusement, beaucoup passeront à côté du salut, puisqu'ils ont une certaine vision de ce que Dieu est. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est ça qui soutient même les fausses doctrines sataniques, démoniaques, de la prospérité, c'est cela. Un chrétien ne doit pas tomber malade, ne peut pas tomber malade. Le pasteur vient, il prie pour toi, tu n'es pas guéri, il dit, tu manques de foi. Et là, tu vas aller dans les jeûnes, dans la culpabilité. On te dit, un chrétien doit être riche. Il montre ses biens, il dit, voilà, je suis la preuve de cela. Malheureusement, beaucoup viennent, mais ils restent à cette étape. Mais Dieu est fidèle. Il fera toujours, même s'il y a des faux enseignants, Dieu va parler par son esprit. Pour dire que le plus important, c'est que tu me connaisses, que tu me cherches. C'est ça le plus important. Et beaucoup vont passer à côté, puisqu'ils ont eu une certaine vision de Dieu. Naaman est venu, il a dit, oh, mais je croyais qu'en venant, le prophète sortirait, qu'il déroulerait un tapis rouge pour m'accueillir. Je ne suis pas n'importe qui. Et en plus, je viens lui donner l'argent. L'homme de Dieu a dit non. Il a envoyé son serviteur Gehazi. Il a dit, va discuter avec lui, va lui dire ce qu'il doit faire. C'est ça. Et Naaman est en train de réfléchir. Dans sa colère, là, il réfléchissait. Mais finalement, il a eu non seulement la guérison, mais il a rencontré le véritable Dieu. Et il a compris finalement que Dieu a même permis qu'il tombe ainsi malade pour qu'il puisse le rencontrer tout simplement. C'est cela. Mais beaucoup s'arrêtent sur ce que je désire, ce que je veux. Et quand je ne l'ai pas, toujours dans la tristesse, toujours dans les murmures. Et avec cette attitude-là, nous risquons de passer à côté. Nous lisons Matthieu 25. Matthieu, chapitre 25. C'est l'histoire des 10 vierges. Quand on parle de l'enlèvement dans la Bible, il y a des textes qui sont clés. Et ce texte nous parle de ce qui arrivera. Donc nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 12 ou 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheté, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Voilà une autre catégorie. On parle de 10 vierges qui avaient des lampes. On parle des chrétiens, on peut comparer ça à des chrétiens qui ont la parole de Dieu, qui viennent à l'église, qui reçoivent des enseignements, qui louent ensemble, qui glorifient le Seigneur. Mais dans ce groupe-là, il y en a qui sont sages et il y en a qui sont folles. Les folles, c'est, elles ont reçu, comme les sages, elles ont tous reçu les enseignements, la parole de Dieu. Mais elles vivent, sont des personnes qui vivent en fonction de leurs désirs, en fonction de ce que eux ils ont décidé, non pas en fonction de la parole. Ce sont des personnes qui vivent dans la légèreté. Le Seigneur revient, oui, il revient. Il revient bientôt, oui, il revient bientôt. Quand il chante même, quand Jésus reviendra, il chante, la trompette va sonner, il chante. Mais dans la vie de tous les jours, la vie pratique, ils sont légers. Les folles, ils font le mal, eh ben, ils demandent pardon. Attriste le Seigneur, on se repent. En fait, les lampes, on a fait une étude biblique très longue là-dessus. La lampe, ça représente une vie de tous les jours qui manifeste la gloire du Seigneur. Une vie de foi tous les jours. On a besoin de ça tous les jours. Si on néglige ça aujourd'hui et demain, eh ben, si on n'a pas la foi aujourd'hui de croire que Dieu va s'occuper de mon problème, eh ben, cette petite foi-là qui te fait dire que ton problème, Dieu ne va pas le résoudre, eh ben, un jour, cette petite foi va t'amener aussi à douter sur ton salut. Or, Dieu veut que tout ce qu'il nous a donné, qu'on prenne soin de cela sérieusement tous les jours. On prend soin de cela. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Pourquoi s'entretenir? Parce que quand une machine fonctionne, eh ben, à un certain moment, il y a sa grippe, il y a la rouille, il faut faire l'entretien, il faut faire une mise au point. Un véhicule, eh ben, quand tu l'utilises, au bout d'un certain moment, le constructeur te dit, eh ben, pour que le véhicule soit toujours opérationnel, eh ben, il y a ceci à faire, il y a une vidange à faire. Il y a des contrôles, des vérifications à faire. Et ce sont les sages qui, en marchant dans la vie chrétienne, eh ben, elles tiennent compte de tout cela, chaque jour. Elles manifestent la foi. Une vie de prière, tous les jours. Il y a des chrétiens, ils sont chrétiens, ils prient seulement ici le mercredi, et encore. Et encore. Certains ne prient même pas avant de manger. Or, la prière, c'est ça qui nous maintient dans la relation avec notre Dieu. On voit le Seigneur Jésus-Christ qui lui-même à l'aurore se levait tôt le matin pour prier. Il ne priait pas pour demander quelque chose à Dieu, à son Père. Mais il priait parce qu'il avait besoin d'être en communion avec son Père. Et c'est dans la prière que Dieu nous communique sa pensée. C'est dans la prière que Dieu nous dit, mais toi tu viens me parler alors que tu as un problème avec un tel. Mais si on n'a pas l'attitude de prière, voilà pourquoi on voit parfois des chrétiens qui se boudent pendant longtemps, parce que cette personne n'a pas une attitude, quand je dis la prière, c'est l'adoration aussi, ça va ensemble. Si tu as une attitude d'adoration, de prière, de crainte de Dieu, eh ben, tu sais que tu as un problème avec quelqu'un, tu ne peux pas venir à l'assemblée, louer Dieu. Mais là, il faut être courageux. Quel courage! Mais si on est sincère, on dira non, là j'ai un problème. Et le Seigneur lui-même dit, hein, avant de donner l'offrande, avant d'adorer Dieu, tu te rappelles qu'il y a un problème, va arranger ce problème-là. Ensuite, viens, ce que tu donneras pourra glorifier le Seigneur. Sinon, ça ne sert à rien. C'est cela. Et les vierges sages, ce sont celles qui vivent tous les jours la parole de Dieu. Tous les jours. Comme on a dit, une vie de foi. Une vie de prière. Une vie d'amour. Parfois, on sent que ça ne va pas avec un tel. On dit, Seigneur, ah non, je ne veux pas. Je ne veux pas que ça reste comme ça. Seigneur, aide-moi.
Regarde un tel, voilà ce qu'il a dit sur moi. Ça m'a blessé, mais Seigneur, donne-moi la voix. C'est ça les sages. Tous les jours, elles sont prêtes. Et les autres, c'est la négligence, c'est la légèreté. On est là, on est chrétien professionnel. On sort les champs, les ailes de la foi, on les connaît par cœur. Comme je connais une personne qui me dit, eh ben, ça fait 30 ans que je suis chrétien. Je dis, mais ça fait 30 ans que tu es chrétien, mais le Seigneur est contre le divorce. Ah non, toi, il y a des expériences de la vie. Ah voilà, c'est ça, les folles. Ils sont chrétiens. Ils ont reçu la parole de Dieu, ils connaissent la parole de Dieu, mais ils ont été frappés par les expériences de la vie. Ils se sont assoupis. Non seulement assoupis, ils se sont même endormis. Or, la morale de l'histoire ici, c'est quoi? C'est que l'époux va arriver. Mais est-ce qu'on connaît l'heure? Est-ce qu'on connaît le jour? On ne connaît pas. Alors, le Seigneur dit, voilà pourquoi, tous les jours, on doit être prêt. Tous les jours. La Bible dit, autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de vous. Ça veut dire que, même si c'est l'autre personne qui est à l'initiative du contentieux, mais moi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai la responsabilité de rester toujours en accord avec Dieu. Alors, je vais arranger la situation. Il y en a qui disent, mais non, c'est lui qui a commencé, il n'a qu'à venir me voir. Non, non. Est-ce que c'est lui qui va te juger ou est-ce que ça sera lui ton avocat devant Dieu? Ou est-ce que c'est lui le prétexte que Dieu va utiliser pour excuser notre péché? Non. Le problème, c'est entre moi et Dieu. Alors si je sens qu'une personne a un problème, eh bien, moi j'arrange parce que mon objectif à moi, c'est d'être en accord avec Dieu. C'est ça mon objectif. Alors que la personne refuse, que la personne accepte, si elle accepte, gloire à Dieu, si elle accepte, malheureusement, ben on prie pour la personne. Mais l'objectif qui est là, c'est moi et Dieu. Où est-ce que j'en suis? C'est ça le plus important. Et les vierges folles, ce sont celles-là. On vit la vie chrétienne tous les jours. Comme la loterie. C'est le hasard. C'est la légèreté. Il y en a même qui font même des songes, qui parfois même font des témoignages. J'ai vu Dieu, Dieu m'a ramené au ciel, en enfer, j'ai vu. Mais les mêmes là, tu vois la vie des personnes sur internet, tu dis mais voilà, voilà, c'est la folie. J'ai eu des grandes expériences avec Dieu. Oui, tout ça c'est bien les grandes expériences, mais la plus grande expérience, c'est d'être au ciel avec lui. Amen. C'est celle-là. C'est ça la plus belle expérience. C'est d'être, de voir le ciel avec Dieu. C'est ça. Pourquoi certains passeront à côté du salut, n'iront pas au ciel, puisque ils seront comme les vierges folles qui vont négliger la vie de tous les jours. La vie chrétienne, c'est une vie qui se vit tous les jours, tous les jours. Tous les jours, à chaque instant. À chaque moment, à chaque lieu même, on pourra dire. C'est ça la vie chrétienne. On n'est pas chrétien dans ces locaux. On est chrétien à la maison. En étant exemplaire. En aidant aux tâches ménagères. Il y en a qui disent, ah non, non, là, ça, moi, je ne peux pas toucher à ça. Oh, la vie chrétienne, c'est tout ça. C'est un tout. C'est pas un métier, ce n'est pas un rôle qu'on a, c'est une nouvelle vie. Or, une vie, eh ben, on la vit partout. On la vit partout. Que tu sois en Chine, que tu ailles en Angleterre, que quand tu es vivant, eh ben, tu vis, les lieux changent, mais toi, tu continues de vivre. C'est ça. Et être chrétien, c'est cela aussi. Et malheureusement, beaucoup se sont appesantis. Avec les réalités de la vie, les réalités du monde. Il y en a qui disent, ah, surtout en Afrique, ah, dans ce pays, c'est comme ça, il faut comprendre. Si tu es honnête, tu ne vas rien gagner. Malheureusement, c'est des personnes qui ont négligé la foi de tous les jours. Comme on nous a témoigné une fois, un pasteur en Afrique, il dit, un serviteur de Dieu, mais nous, sans l'Afrique, on ne peut pas, sans l'Europe, on ne peut pas vivre. Mais voilà, un pasteur. les réalités de la vie l'ont tellement atteint. Il a perdu la foi de tous les jours, la foi selon laquelle, même avec rien du tout, Dieu peut produire quelque chose. Lorsqu'on perd cette foi-là, eh bien finalement, on devient un mendiant. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quelqu'un, comme un bishop qui envoie un message sur Internet dans le monde entier, cotiser 300 dollars pour m'acheter un jet à 10 millions d'euros. Mais quel courage, quelle audace. Mais pour arriver à cette audace-là, après on se pose la question, est-ce que ce sont des serviteurs de Dieu? Je ne pense pas. Mais il y en a aussi qui se sont retrouvés dans des situations similaires. Pourquoi? Par la négligence de la foi de tous les jours. La négligence de la confiance de Dieu tous les jours. Ils ont négligé cela. Et un jour, ils se voient eux-mêmes, ils se surprennent à faire des choses qu'ils n'avaient même pas pensé. Et le Seigneur nous dit, soyons comme les sages qui vivent la vie chrétienne tous les jours, qui ne vivent pas la vie chrétienne comme un métier à l'église, mais à chaque instant, à chaque moment, ils sont prêts. Après, on va dire, est-ce que c'est possible? Oui, cela est possible. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit, je ne vous délaisse pas, je ne vous abandonne pas. Il est avantageux même que je parte. Et quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et lui, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, notre part à nous, c'est de faire confiance au Seigneur. C'est de faire confiance au Seigneur. Je me rappelle un bien-aimé qui m'a posé une question. Il m'a dit, mais est-ce que, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tous les faux chrétiens, avec les chrétiens qu'on pense être corrects, qui sont dans le compromis, le catholicisme, l'œcuménisme, toutes ces choses, mais est-ce que c'est possible de tenir jusqu'au bout? Il dit, oui, c'est possible de tenir jusqu'au bout. On a des exemples de ceux qui ont tenu jusqu'au bout. C'est possible. Et comment y parvenir? C'est tous les jours obéir à la parole de Dieu. C'est ça. Tous les jours. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va jamais faillir? Non. Il peut arriver, s'il arrive qu'on tombe, on demande pardon, on s'humilie, on dit Seigneur, j'ai mal fait. On se rappelle de la prière de David, psaume 139, il dit, ô Éternel, sonde-moi, connais mon cœur. Toi qui vois les profondeurs, il dit, tu vois ma situation quand je m'assois, quand je suis là, quand je suis partout, tu me connais. Il dit, alors Seigneur, je ne peux rien te cacher. Alors, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Montre-moi si je suis sur la bonne voie. Mais si je ne le suis pas, ramène-moi sur la voie de l'éternité. C'est ça. David a compris ce qui était le plus important, c'était d'être avec Dieu. C'est cela. Et à chaque fois, David a péché. David a tué quelqu'un. Et il a tué Uri, mais pas seulement quelqu'un. Il a fait la guerre. Il avait du sang. En tout cas, c'est Dieu qui le dit. Mais David, c'était quelqu'un qui avait le cœur à aimer Dieu. Lorsqu'on vient, on le reprend, il se repent. Lorsqu'il est devant la parole de Dieu, il comprend, ah, là j'ai mal fait. Seigneur, pardon, c'est ça. Le Seigneur veut que nous puissions vivre la vie chrétienne tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il revient. Et comme on a vu avec ces vierges, certaines ont été prudentes, d'autres non. Et l'affaire de salut, c'est une question personnelle. Tu n'iras pas voir un frère pour dire, mon frère aide. Non, la question du salut, Dieu nous a tous donné ce qu'il fallait pour que nous soyons sauvés. C'est Jésus. Il a donné à tout le monde Jésus. Il a donné à tout le monde. Personne ne dira, oui, mais un tel a eu plus que nous. Non, on a tous reçu Jésus. Aujourd'hui en France, nous avons tous la parole de Dieu. Nous avons tous la Bible. Nous avons tous accès à la parole de Dieu par des prédications. Nous avons tous accès à tout. Sur ce point-là, Dieu nous a mis tous sur un plan d'égalité. Mais malgré tout cela, la réalité c'est que il y en a qui vont profiter, qui vont être prêts tous les jours. Et il y a d'autres qui vont vivre dans l'étourdissement, un peu étourdi. Mais malheureusement, le Seigneur revient. Alors, pourquoi résister? Alors, pourquoi continuer à s'obstiner? En disant, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors pourquoi rester dans sa position? Disons au Seigneur, Seigneur, nous voulons être avec toi. Comme le chant dit au dernier jour, le Seigneur reviendra et il prendra ses élus. C'est cela. Le Seigneur reviendra. Il dit dans Matthieu 7, 21, beaucoup diront, Seigneur, nous avons fait ceci, cela. Il dira, moi, je ne vous ai jamais connu. L'objectif de Dieu, c'est le ciel. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide au travers de tous les points que nous avons cités, que le Seigneur nous aide à être prêt, être agréable, à lui être agréable, pardon, à suivre sa parole. Puisque notre objectif, comme l'apôtre Pierre dit, que nous sommes sur la terre comme des pèlerins. Mais notre destination, c'est le ciel. Mais seuls ceux qui auront fait la volonté de Dieu, seuls ceux qui auront obéi à la parole chaque jour, seuls ceux qui se seront humiliés, seuls ceux qui auront compris que Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons désirer, comme bien, comme bénédiction. Seuls ceux qui auront compris que la justice véritable, c'est Jésus-Christ. C'est en lui que nous sommes justifiés. Ceux-là seront sauvés. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole et Seigneur, merci pour ta grâce. Car comme il est écrit, Seigneur, tu veux que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, il est écrit que tu nous as tant aimés, que tu as donné ton Fils Jésus-Christ afin que nous ayons la vie éternelle. Et Seigneur, comme tu nous as parlé ce matin, beaucoup pourraient passer à côté, Seigneur, de cette vie éternelle que tu nous proposes. Seigneur, nous venons nous humilier aujourd'hui. Nous venons nous humilier devant toi pour te dire que nous avons besoin de toi. Aide-nous. Sonde-nous, Éternel. Et ramène-nous sur la bonne voie. Seigneur, peut-être que nous avons fait confiance en notre façon de faire, les traditions, les habitudes. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Peut-être que nous avons fait confiance à notre propre justice en disant que je suis bon, je ne mens pas, je ne vole pas. Mais Seigneur, tu nous dis aujourd'hui que c'est ta justice qui compte. Voilà pourquoi nous venons nous soumettre à ta justice, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Peut-être que nous sommes venus avec des projets, des attentes, de bénédictions de toutes sortes. Seigneur, tu nous dis aujourd'hui que toi, tu es plus important que tout cela. Tu veux que nous puissions te chercher, toi, d'abord. Et enfin, Seigneur, nous voulons être comme ces vierges sages qui, tous les jours de leur vie, ont obéi à ta parole, sont restés dans une vie de prière, dans une vie de foi. C'est ça que tu attends de nous. Pardonne-nous pour toutes les légèretés que nous avons pu manifester. Pour toutes les fois où nous avons, Seigneur, négligé ta parole, même en connaissant, Seigneur, des versets qui répondent à notre situation. Mais nous avons négligé, nous avons reporté cela plus tard.